18h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Une chimère, c'est un véhicule qui est à la fois composé d'un véhicule électrique et d'un véhicule thermique, qui essaye de remplir tous les usages, mais qui en réalité n'en remplit aucun.
Les véhicules hybrides rechargeables, pas aussi écolo qu'on pourrait le croire, voire pas écolo du tout. C'est ce que révèle une étude choc sur les émissions de CO2. Dossier complet dès le début de ce journal.
L'ouverture des stations de ski pour les fêtes de fin d'année, l'exécutif n'a pas encore tranché. Plusieurs scénarios sur la table. L'enjeu financier est évidemment énorme.
La réouverture des bars et des restaurants, c'est pas non plus pour tout de suite, en tout cas pas chez nous en France, parce qu'en Espagne, en Catalogne, ça y est, réouverture progressive depuis aujourd'hui, on sera sur place.
À peine ouvert et déjà suspendu, faux départ au procès de Nicolas Sarkozy pour corruption dans l'affaire dite des écoutes.
Le Vendée Globe, les marins entament leur troisième semaine de solitude en mer, encore du changement en tête du classement. La Bourse de Paris a terminé ce soir en légère baisse de 0,07% à 5492 points.
Et puis la météo avec Anissa, bonsoir.
Bonsoir Julien.
Un temps plus nuageux au programme demain.
Oui, avec encore demain matin, pas mal de brumes et de brouillards, parfois même givrants. Dans l'après-midi, le ciel a du mal à se dégager. Le soleil pointera les bouts de ses rayons par quelques endroits, mais ça va être très très neutre. Et puis, il va faire froid, très froid demain. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
À l'heure où l'on demande aux Français de privilégier les véhicules non polluants, à l'heure des primes à la conversion et des primes à la casse, alors que les contrôles techniques sont de plus en plus implacables, alors qu'il faut des vignettes pour circuler en cas de pic de pollution, cette étude choque donc sur les véhicules hybrides rechargeables.
Oui, étude de l'ONG Transport et Environnement qui conclut, Virginie Salmen, que ces voitures polluent bien plus que ce que laissent entendre leurs constructeurs.
Oui, trois modèles parmi les plus vendus en Europe ont été testés en conditions réelles, donc sur route, par un cabinet d'experts britanniques. Le BMW X5, le Volvo XC60 et le Mitsubishi Outlander. Première configuration dans des conditions idéales, c'est-à-dire batterie chargée, route plane, coffre vide, très bonnes conditions météo. Ces voitures ont émis entre 28% et 89% de CO2 de plus qu'annoncé par les constructeurs. Deuxième configuration, plus réaliste, avec un coffre chargé, des accélérateurs, des côtes, une batterie électrique vide. Là, ça monte jusqu'à 8 fois plus d'émissions que sur le papier. Et le record, c'est 12 fois plus quand le moteur thermique se met à recharger la batterie électrique en route. Là, on est presque au niveau d'émissions de CO2 d'une Porsche Cayenne, selon l'étude. Conclusion pour Diane Strauss, directrice France de l'ONG Transport et Environnement. L'hybride rechargeable est une bombe climatique.
C'est une chimère. C'est un véhicule qui est à la fois composé d'un véhicule électrique et d'un véhicule thermique, qui est de remplir tous les usages, mais qui en réalité n'en remplit aucun, puisque la batterie est si faible que ce n'est pas vraiment un véhicule électrique, c'est un faux véhicule électrique, et le véhicule est tellement lourd que ce n'est même plus un véhicule thermique performant. Même un conducteur qui voudrait un usage vertueux de son véhicule hybride rechargeable ne va pas forcément pouvoir l'utiliser comme il l'aimerait et atteindre les seuils d'émissions annoncés.
Alors cette ONG de référence en Europe appelle l'État français, entre autres, à arrêter de subventionner l'hybride rechargeable à hauteur de 40 millions d'euros par an pour la France et à se concentrer sur les véhicules électriques.
Alors vous restez avec nous Virginie parce que vous venez de joindre le porte-parole des constructeurs automobiles, François Roudier. On va l'écouter ensemble, il se défend. Pour lui, ça n'est pas tant un problème de conception des véhicules hybrides rechargeables, mais plutôt la faute des conducteurs.
Cette étude fait des points dans des situations où on n'a pas à se retrouver un hybride rechargeable. Un hybride rechargeable, déjà, quand on part de chez soi, il doit être chargé. C'est-à-dire que la batterie doit être pleine, donc on ne va pas se retrouver à tourner uniquement sur le thermique avec un hybride rechargeable, ce qui n'a aucun intérêt. C'est plus l'utilisation du véhicule par le conducteur qui est à refaire, qui est à reformater, c'est-à-dire qu'il faut faire des formations d'éco-conduite pour que ce conducteur ne passe pas trop souvent sur le thermique que sur son hybride rechargeable et qui reste sur l'électrique, c'est-à-dire qu'il recharge sa batterie et puis surtout qu'il ait une accélération modérée et qui ne se croit pas aux 24 heures du Mans. Oui, vous allez vider la batterie si vous roulez à 130 sur l'autoroute, vous allez vider très vite, mais ce qui n'est pas du tout l'objectif de ce type de véhicule.
Bah oui, c'est QFD, c'est la faute du conducteur, nous dit François Roudy. Alors Virginie Salmen, vous êtes toujours avec nous, on entend ce que dit le porte-parole des constructeurs automobiles. Il a raison, c'est vraiment la faute des conducteurs si ça pollue les hybrides rechargeables ?
Alors si on se fie aux résultats de l'étude, c'est moins un problème de conduite que de faible puissance de la batterie électrique, notamment dans les accélérations en sortie de ville ou sur autoroute, où il faut bien quand même augmenter la vitesse. Dans ces moments-là, c'est le moteur thermique qui s'enclenche, dit l'étude, parce que la puissance de l'électrique n'arrive plus à suivre. Et dans ce cas-là, on a donc un véhicule très lourd, parce qu'il a deux moteurs et une batterie électrique, donc un véhicule très polluant.
Et on n'a pas fini d'en parler. Merci Virginie Salmen du service Société d'Europe 1, et on posera la question évidemment à Cyril Dion, mon invité à 18h20. Il est l'un des initiateurs de la Convention citoyenne pour le climat.
Dans 24 heures, vous le savez, le président doit fixer le cap. Emmanuel Macron dévoilera demain à 20h les grandes lignes d'un confinement allégé. Les petits commerces notamment attendent de savoir s'ils pourront rouvrir le week-end prochain.
Quant aux stations de sport d'hiver, on l'évoquait dans les titres, la décision de leur ouverture ou non pour Noël sera annoncée dans les 10 prochains jours. Leurs représentants étaient reçus à Matignon aujourd'hui.
Et on rappelle que l'enjeu économique est énorme, hein, Adrien Beck.
Ah oui, c'est l'or blanc, hein, 10 milliards d'euros par an. Sans doute pour cela que le gouvernement se donne un peu de temps. Mais selon nos informations, l'hypothèse la plus probable à ce stade, c'est quand même pas d'ouverture des stations de ski. Il faut voir que les Alpes restent la région où l'activité épidémique est la plus forte et le gouvernement n'a aucune envie de voir un rebond des contaminations sur ces territoires. Alors l'autre hypothèse, c'est une ouverture au moins partielle, peut-être sans bar, sans restaurant. Jean-Luc Bock, le maire de La Plagne, propose lui un protocole sanitaire renforcé.
Le port du masque sur les remontées mécaniques, c'est quelque chose qui sera obligatoire. On va mettre en place des centres de dépistage avec des tests antigéniques. Il vaut mieux un petit peu de contraintes et bénéficier des grands espaces que pas de contraintes du tout et ne pas pouvoir ouvrir nos stations.
Voilà, alors avant de prendre sa décision, le gouvernement espère aussi une coordination européenne sur l'ouverture ou non des stations. On imagine avec nos voisins Italie, Espagne. On voit d'ailleurs qu'en Suisse, certains domaines ont déjà ouvert. Les acteurs de la montagne ont assuré ce matin pouvoir être prêts en 15 jours, d'autant, sourit l'un d'eux, que pour l'instant, le plus gros problème, c'est qu'il n'y a pas de neige.
Dossier à suivre donc, précision signée Adrien Beck.
Et alors qu'en France, on ne sait donc toujours pas quand on pourra de nouveau s'attabler au restaurant ou boire un café au comptoir. En Espagne, dans la région de Catalogne, les bars et les restaurants peuvent de nouveau ouvrir depuis aujourd'hui.
Et on imagine que les Catalans attendaient ça avec impatience. Henri de Laguerie, vous êtes notre correspondant à Barcelone en direct, même s'il s'agit, Henri, d'une reprise très progressive.
Oui, effectivement, car le protocole sanitaire est très strict. En terrasse, il doit y avoir 2 mètres entre chaque table et à l'intérieur, la capacité est réduite à 30%. Et puis, il faut fermer à 21h30 avant le couvre-feu. C'est dur, mais peu importe. Paola Ospina, la patronne du restaurant Les Filles dans le centre-ville, a le sourire.
Très contente, ouais. Que je puisse ouvrir en 30%, c'est terrible, mais au moins je peux ouvrir. On a besoin de travailler pour tout, pour payer les loyers, mais aussi pour la dette, pour être occupé, pour nos clients. On s'est tous, je crois, rendu compte quand tout est fermé, c'est très triste.
Voilà, dans ce restaurant, 5 employés sur 10 ont été réembauchés. Après plus de 5 semaines de fermeture, les clients sont de retour comme Jesús.
Ça fait longtemps que je n'étais pas venu en terrasse. Petit à petit, il faut reprendre une vie normale.
Barcelone retrouve un peu de son activité et de sa vie dans la rue, mais on est loin de l'euphorie du mois de mai dernier. Lors de la première réouverture, un tiers des restaurants sont encore fermés aujourd'hui. Pour beaucoup, ce n'est pas viable de lever le rideau dans ces conditions. Et puis, malgré le soleil, toutes les terrasses n'étaient pas remplies aujourd'hui. Le froid sans doute, mais aussi et surtout la peur de se contaminer qui reste très présente ici à Barcelone.
En tout cas, ça fait longtemps qu'on n'avait plus entendu ces petits tintements de verre derrière vous. Merci Henri de Laguerie en direct de Barcelone. Le groupe alimentaire, agroalimentaire Danone annonce qu'il va supprimer jusqu'à 2000 postes dans ses sièges en France et à l'étranger. Et le motif invoqué, eh bien, c'est la baisse des ventes de bouteilles d'eau engendrée justement par les fermetures des bars et des restaurants.
Un nouveau vaccin, Isabelle, un de plus, sans doute bientôt sur le marché. Cette fois, c'est le laboratoire britannique AstraZeneca, associé à l'université d'Oxford, qui a développé un vaccin efficace à 70% en moyenne, voire à 90% dans certains cas.
Alors c'est vrai que ce sont des résultats pour l'heure moins probants que ceux de ses concurrents, Pfizer, BioNTech ou Moderna, dont l'efficacité dépasse les 90%. Mais cette formule britannique a l'avantage d'utiliser une technologie plus traditionnelle qui rend son futur vaccin moins coûteux et plus facile à stocker puisqu'il n'a pas besoin d'être conservé à très basse température.
Et on verra dans le journal de 19h si la France est prête, évidemment, en vue d'une campagne de vaccination massive.
Europe 1. Julien Bugier.
18h09, vous restez avec nous dans quelques secondes. Le procès de l'affaire des écoutes, dans lequel comparaît Nicolas Sarkozy, suspendu jusqu'à jeudi.
Et puis ça tangue en tête du Vendée Globe.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
18h11, la suite du journal avec Isabelle Millet. Faux départ donc pour le procès de l'affaire dite des écoutes.
Oui, procès dans lequel devait comparaître Nicolas Sarkozy et qui est donc reporté à jeudi, Chloé Triomphe, car l'un des prévenus a peur d'attraper le Covid.
Oui, il s'agit du magistrat impliqué dans cette affaire, Gilbert Azibert, qui est aujourd'hui âgé de 74 ans et qui vit à Bordeaux, mais qui est surtout, comme l'a expliqué son avocat, un sujet à risque s'agissant du coronavirus, avec des faiblesses cardiaques, respiratoires et des problèmes de tension. Deux certificats médicaux attestant du caractère déraisonnable de sa comparution pendant 3 semaines en pleine pandémie. Son conseil a donc demandé le renvoi du procès, car si la visioconférence serait une possibilité juridique, d'autant plus avec l'ordonnance prise récemment par le garde des Sceaux, Gilbert Azibert y est bel et bien opposé car il souhaite se défendre des visus devant le tribunal. La visioconférence, c'est pourtant la solution que la représentante du parquet qui représente l'accusation préconise, une solution solide, équitable, a-t-elle expliqué. Alors si aucun des autres avocats ne s'est associé à cette demande de renvoi, tous ont tout de même affirmé leur opposition à la visioconférence. Quant à Nicolas Sarkozy qui était présent tout à l'heure, costume, cravate et masque de rigueur. Il est là, il est prêt à plaider son avocate. La présidente du tribunal s'est donnée jusqu'à jeudi pour réfléchir et a demandé une nouvelle expertise médicale de Gilbert Azibert.
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1.
Et puis la justice encore avec le procès des attentats de janvier 2015 qui est lui aussi de nouveau suspendu pour une semaine.
Faute d'accord des avocats sur le recours à la visioconférence pour le principal accusé, ce dernier souffre toujours des symptômes du Covid.
Et c'est décidément une journée très riche d'un point de vue judiciaire. À 19h, on sera à Rennes pour le procès de 7 militaires poursuivis pour homicide involontaire.
8 ans après la mort d'un sous-lieutenant lors d'une soirée d'intégration.
Et puis des nouvelles du Vendée Globe, Isabelle.
Oui, avec une succession d'avaries ces dernières 48 heures, Corinne Boulou qui bouleverse le classement et surtout le trio de tête.
Oui, c'est vrai que ces deux derniers jours ont été riches en rebondissements. Alex Thompson en tête il y a encore 48 heures est relégué désormais en 5e position. Le Gallois a été contraint de lever le pied pour réparer une sérieuse avarie à l'avant de son monocoque Hugo Boss où des fissures dans la structure commençait à apparaître, mais il poursuit sa route. Thompson a donc vu dans un premier temps Thomas Ruyant sur son monocoque Linked Out lui passer devant. Le nordiste, pas épargné non plus par des pépins techniques, il a dû escalader son mât à 30 mètres de hauteur pour réparer une drisse. Et en début de matinée, eh bien Charlie Dalin, en embuscade, a profité d'un meilleur angle de vent pour se glisser aux avant-postes à bord de son monocoque Apivia. Il se réjouissait de sa position au beau milieu de l'Atlantique Sud.
Bon, une nuit un peu plus rapide que ce que je pensais. J'ai eu pas mal de vent cette nuit au final. On a fait des belles pointes de vitesse là. Je pense que ça a permis de pas mal rattraper Thomas.
Et ce soir, au dernier pointage, Charlie Dalin est donc en tête du classement provisoire du Vendée Globe. Il devance d'une 50aine de kilomètres Thomas Ruyant et Jean Le Cam a réintégré le podium, mais à 500 kilomètres des deux premiers.
Et vous continuez à suivre ça. Merci Corinne Boulou.
Merci Isabelle, on vous retrouve tout à l'heure pour le rappel des titres à 18h30 et le journal de 19h.